Europe 1, il est 22h. L'essentiel de l'info, c'est avec vous Simon Rubin.
On se dit entre collègues qu'on parle beaucoup moins allemand, anglais ou espagnol que d'habitude. On parle plus souvent français en fait.
Les vacances sans touristes étrangers. Comme attendu en pleine période de Covid, chacun reste chez soi et le tourisme franco-français bat son plein. Reportage dès le début du journal. On reviendra également sur l'accident de la route qui a coûté la vie à 5 enfants sur l'A7 lundi dernier. D'après les premiers rapports d'enquête, c'est une défaillance technique du véhicule qui a provoqué un départ de feu à bord. Les témoignages à suivre de l'un des riverains ayant sauvé du côté de Grenoble deux enfants d'un immeuble en flammes. Les enfants ont sauté par la fenêtre et 10 mètres plus bas, il les a rattrapés.
Je leur a sauvé la vie et c'était à la fois fou et magique. Je suis tellement fier de moi, pour toujours.
Et puis un peu de musique en fin de journal avec une pépite jamais entendue, des Stones, sortie tout droit des années 70. La bourse de Paris, elle termine en net baisse, moins 1,32% à 5037 points. La météo complète à la fin du journal avec Valérie Darmon. Et puis comme chaque soir de l'été, on vous proposera un peu de lecture avec Stéphane Place. Et puis pourquoi pas trouver un peu l'inspiration avec La Bonne Idée de Thierry Dagiral.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les Français en vacances restent en France. Alors à la base, c'était un souhait, une forte invitation des autorités. En pleine crise de Covid, l'idée était bien sûr de limiter la propagation du virus, sans parler des frontières des pays voisins qui n'étaient pas toujours ouvertes. Et ce souhait, il est devenu réalité. Face à l'incertitude du Covid, les Français sont bien restés en France. Hélène Terzian, vous êtes du côté du bassin d'Arcachon. Et il y a du monde, beaucoup de monde et surtout, voire uniquement des Français.
Ah ça, je vous le confirme, je n'ai pas dû utiliser mon anglais pour aller à la rencontre des vacanciers. Les Français sont bien là. Ils viennent de partout dans l'Hexagone. Delphine, par exemple, est venue de Lyon avec son mari et ses enfants. Je l'ai rencontrée à l'heure du déjeuner, attablée au restaurant de la plage. Elle ne regrette pas du tout sa destination initiale, bien au contraire.
On avait prévu de partir en Croatie, du coup, et avec le Covid, on est venu voir un petit peu les plages de la côte ouest. On est agréablement surpris. Très, très beau. C'est très nature, très dépaysant. On est super bien. On va déjeuner tranquille au soleil. Il fait beau, la plage est à deux pas, on va se baigner ensuite, donc les vraies vacances.
À quelques pas, en effet, depuis l'étendue de sable, André se dirige tout droit vers la mer turquoise. Ce Normand se dit aussi que ce paysage vaut bien le bord de mer espagnol où il avait prévu de passer l'été. En tout cas, l'excitation de la première baignade est la même, quel que soit le pays, à l'exception peut-être de la température de l'eau.
Encore quelques pas, ça va être le grand bain. J'espère qu'il n'est pas trop froid. Ah, on approche, attention. C'est froid, mais ça devrait aller. La Manche est beaucoup plus fraîche. On a l'habitude.
Une fois séché et un peu plus bronzé, André va retourner dans son bungalow. Cette année, les campings sont pris d'assaut par les Français. Corinne, responsable de l'accueil au célèbre camping des Flots Bleus, popularisé par Franck Dubosc, le constate depuis sa loge.
On se dit entre collègues qu'on parle beaucoup moins allemand, anglais ou espagnol que d'habitude. On parle plus souvent français, en fait. Et aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'appels de dernière minute. Je pense des gens qui veulent profiter 3-4 jours. Et ça, évidemment, surtout les Français.
On remarque d'ailleurs tout de suite ces primo ou néo-campeurs pas toujours à l'aise au début avec l'environnement du camping. Mais il suffit, dit-elle, d'une partie de pétanque ou d'un tour à la piscine pour espérer les retrouver l'an prochain.
Hélène Terzian, nouveau bilan mondial du coronavirus. Plus de 15 millions de cas détectés et près de 617 000 morts parmi les pays les plus touchés en nombre de décès. Les États-Unis, 142 000 morts devant le Brésil, 81 000, le Royaume-Uni, 45 000, le Mexique et l'Italie. Et puis en France, eh bien Olivier Véran, ce soir, le ministre de la Santé, a lui précisé les contours du dispositif d'envoi de masques gratuits pour les foyers les plus modestes.
Il est évident que la France ne laissera pas des personnes dans l'impossibilité de s'équiper en masques. C'est pourquoi nous allons envoyer 40 millions de masques grand public, lavables, réutilisables 30 fois, de manière à fournir 7 millions de Français qui sont au niveau du seuil de pauvreté, qui sont les bénéficiaires de la complémentaire santé oui. solidaire, et de manière à ne leur demander aucune démarche pour être sûr que les masques arrivent à bon port, nous passons un contrat avec La Poste, que je remercie pour sa diligence et qui s'est engagé à, dans quelques jours seulement, être capable d'envoyer directement au foyer de ces Français des masques gratuits pour une protection de 3 mois. Et par ailleurs, l'assurance maladie remboursera à 100% des masques chirurgicaux pour 2 millions de Français qui, eux, sont porteurs de vulnérabilité médicale.
Olivier Véran, le ministre de la Santé. Et puis la question du vaccin qui continue de faire parler. Hein, ce vaccin qui se trouve être aussi la clé potentielle de l'organisation des Jeux Olympiques. Hein, le président du comité d'organisation des Jeux de Tokyo a annoncé aujourd'hui qu'un vaccin serait un élément fondamental pour la tenue des Jeux qui sont reportés en 2021. Vous avez peut-être vu ces images ô combien marquantes des enfants sautant d'un immeuble en flammes et réceptionnés 10 mètres plus bas par les habitants d'un quartier de Grenoble. Un sauvetage quasi miraculeux. Hier, dans la cité de la Villeneuve, un incendie se déclare au troisième étage d'un immeuble. Deux enfants âgés de 3 et 10 ans se précipitent à la fenêtre et hurlent « on est enfermé ». Les voisins se mobilisent, exhortent les enfants à se jeter dans le vide et se regroupent au pied du bâtiment pour les accueillir, les recueillir et même les attraper. Parmi ces héros d'un jour, Atoumani Walid, un étudiant comorien de 25 ans.
Il pleurait haut et fort, il pleurait « Aidez-nous, aidez-nous, on n'a pas les clés, aidez-nous, aidez-nous. » Tous les quartiers étaient là. « Bravo, allez, 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 courage, courage, sautez, sautez, sautez. On va vous aider, on va vous aider. » Alors c'était risqué, mais on ne pensait pas à ça. On pensait juste qu'à leur vie. Le feu a pris de l'ampleur. Et il y avait beaucoup de fumée et des explosions à l'intérieur. Et là, l'aîné, il a pris le courage de lancer le premier, son petit frère. Et puis c'est autour de l'aîné, il a monté sur la fenêtre et puis il s'est lâché et on l'a réceptionné encore. On parle de héros, les héros c'est eux, ils étaient tellement forts et courageux. Quand ils sont descendus, ils étaient par terre, ils pleuraient pas, ils étaient forts. Et tout ça, on leur a sauvé la vie et c'était à la fois fou et magique. C'est la fierté du quartier, on était solidaires. On dit que l'humanité c'est ça, c'est la vie. Et la vie, ça compte les jeunes et les petits. Je suis tellement fier de moi, pour toujours. Je me rappellerai pour toujours.
Les deux petits garçons hein, sont, eux, absolument sains et saufs. Et puis, notez que l'un des sauveteurs a le poignet cassé. Un témoignage recueilli par Roman Hockey. On en sait un peu plus ce soir sur ce qui a causé le tragique accident de l'A7 hein, dans la Drôme et la mort de 5 enfants d'une même famille. Les premières conclusions des experts font état d'une défaillance du turbo de la Scénic qui se serait brutalement enflammée, Salomé Legrand.
Et oui, conclusion du pré-rapport rendu ce matin qui devrait être définitivement confirmé dans 3 semaines à peu près. L'expert judiciaire en mécanique conclut que tout est parti de la casse du turbo. Celle-ci a entraîné un emballement du moteur qui a fait brûler l'huile et provoqué l'incendie de ce même moteur et peut-être de l'habitacle. Or, la panne a neutralisé tous les systèmes d'assistance du freinage, d'où cette sensation de frein qui ne fonctionne pas. C'est ce qu'avait évoqué auprès des secours le conducteur quelques secondes avant de s'évanouir. Le monospace datait, lui, de 2005. Il aurait dû passer un contrôle technique en mai. Mais il n'était pour autant pas en infraction car le délai a été prolongé jusqu'à l'automne, exceptionnellement à cause de la crise du coronavirus. 4 personnes de cette famille sont toujours prises en charge dans des centres hospitaliers à Lyon, dont un enfant de 7 ans et 2 adultes dont le pronostic vital était encore engagé à l'heure actuelle.
Et Salomé Legrand, une telle défaillance sur un turbo dont vous nous parliez est-elle exceptionnelle? Eh bien, c'est la question qu'on a posée à Philippe Touzet, qui est ingénieur automobile et expert en accidentologie.
Des ruptures de turbocompresseurs, dans l'énorme majorité des cas, ça ne dégénère pas en incendie, en perte de système d'assistance au freinage, etc. Cette pièce, elle est très dépendante de l'entretien général du moteur. Pour conserver un turbocompresseur en bon état, il faut régulièrement faire les vidanges et puis remplacer donc le filtre à air et le filtre à huile quand on fait la vidange. Et puis s'assurer avant un grand trajet que le niveau d'huile est conforme. Parce qu'en fait, l'un des symptômes de défaillance du turbocompresseur, ce sont des pertes de puissance, ce sont des traces d'huile qu'on retrouve dans le filtre à air ou à l'échappement. Donc en fait, un turbocompresseur, avant de tomber en panne, dans l'énorme majorité des cas, il y a des symptômes qui sont précurseurs, hein, qu'il faut savoir identifier. Donc le turbocompresseur, il peut parfaitement faire la durée de vie de la voiture à partir du moment où l'entretien, il est fait régulièrement.
Propos recueillis par François Villemain et l'avocat de la famille hein, met en cause le constructeur affirmant qu'aucune défaillance humaine n'a été constatée. Renault devra s'expliquer, ajoute-t-il.
Europe 1. Le journal de la nuit.
Dans la Sainte Trinité, il n'y a pas de femmes et plus globalement dans l'Église catholique non plus. Alors oui, elles sont nombreuses, bénévoles, qui aident la paroisse, qui gèrent la chorale, mais quand il s'agit d'avoir un véritable rôle dans l'Église, Là, c'est tout de suite plus compliqué. Et elles sont nombreuses à en avoir marre. Après la candidature d'Anne Soupa à l'archevêché de Lyon, 7 femmes ont aujourd'hui postulé à diverses fonctions au sein de l'Église catholique de France, en sachant, Justin Morin, que ces fonctions leur sont interdites, ce qui les pousse d'autant plus à revendiquer leur place.
Oui, je vous donne une phrase du manifeste qui accompagne leur démarche. « Notre geste n'est ni une revendication syndicale, ni une déclaration de grands principes, mais un acte salutaire de désobéissance à la doxa ecclésiale. » Ces 7 femmes, toutes chrétiennes, ont déposé leur dossier officiellement ce matin sur le bureau du nonce apostolique de Paris, l'ambassadeur du Vatican en France. Et pour renforcer l'impact de leur message, elles ont créé un collectif, Toutes Apôtres. On avait effectivement beaucoup parlé de la candidature d'Anne Soupa à l'archevêché de Lyon pour remplacer le cardinal Barbarin. Eh bien, une autre femme, Sylvaine Landrivon, laïque et docteur en théologie, a elle aussi postulé. Tout l'enjeu de ses recherches, c'est justement de redonner aux femmes la place qui est la leur dans l'histoire biblique.
Ceux à qui je m'adresse, finalement, ce n'est pas tellement à l'institution ecclésiale, je m'adresse à tous les gens que l'Église catholique a fait fuir parce qu'ils ne correspondaient pas aux normes édictées par une certaine Église. Et cette Église qui nous accuse de rompre l'unité de l'Église est une église qui vide les églises bâtiments de ses paroissiens.
Et vous l'entendez, ces 7 candidates n'attendent pas grand-chose de l'institution. D'ailleurs, Anne Soupa n'a reçu aucune réponse de la hiérarchie ecclésiastique, même pas un accusé de réception. Mais elles espèrent que d'autres femmes amplifieront le mouvement.
Justin Morin. Et une femme qui réussit, elle, à s'imposer et même à rester au sommet, c'est Delphine Ernotte. Elle a été reconduite aujourd'hui à la présidence de France Télévisions par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et c'est une première dans l'histoire du groupe public, à la tête duquel aucun dirigeant n'avait jamais été réélu. Après le long et difficile sommet européen, Emmanuel Macron de retour sur le terrain en France. Un retour sur le terrain d'ailleurs au sens littéral, puisqu'il a notamment joué au foot avec des jeunes du côté de Chambord dans le Loir-et-Cher. L'occasion pour le président de rappeler ce qui est désormais l'une de ses priorités de fin de mandat, la jeunesse. Jean-Gabriel Bourgeois, il était aujourd'hui aux côtés de ces jeunes qui participaient à ce que le gouvernement a baptisé les « vacances apprenantes ».
Oui, et c'est l'application concrète du nouveau chemin esquissé depuis plusieurs semaines par le chef de l'État, Emmanuel Macron, au contact des Français, sur les territoires, sur le terrain du social, avec la jeunesse, l'un des moteurs de la relance. Après les nuits blanches à Bruxelles, direction Chambord pour les quartiers d'été 2020, un programme pour les jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances. Au menu, l'insertion professionnelle, les activités culturelles et sportives et un président un peu plus décontracté. On a pu le voir tomber la veste, se retrousser les manches pour une partie de football avec des ados et respect des gestes barrières, bien sûr. Et puis quelques annonces aussi pour l'aide à l'emploi des jeunes en accompagnant les entreprises, les encourager à prendre des jeunes en alternance ou en apprentissage. 300 000 contrats d'insertion, 100 000 services civiques supplémentaires, un arsenal de mesures pour faire face aux défis de la crise.
Derrière ces formations, ces emplois, il y a aussi des opportunités que nous donnerons à nos jeunes dans toutes les filières que nous allons développer avec le plan de relance. Les métiers du numérique, les métiers de la transition écologique, mais aussi les métiers de l'industrie ou de l'agriculture qui ont besoin aujourd'hui de compétences et de recrues et vers lesquelles nous pourrons les conduire.
Emmanuel Macron qui a redit qu'il y aurait des plans sociaux et le président d'assurer, nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas d'abus pour les entreprises qui bénéficieront des aides de l'État.
Jean-Gabriel Bourgeois du service politique d'Europe 1 et donc ces aides de l'État notamment, c'est les 4000 euros d'aide au moment de l'embauche d'un jeune pour les entreprises et qui pourrait aller jusqu'à un jeune qui toucherait un salaire de 2 SMIC, soit 2440 euros net. Ça va donc concerner plus de jeunes qu'initialement prévu par le dispositif. Un mot de la Bourse de Paris. Elle a terminé en nette baisse ce soir, moins 1,32% à 5037 points. C'est une baisse qui est liée aux tensions entre la Chine et les États-Unis, puisque Washington a ordonné à Pékin de fermer son consulat à Houston d'ici 3 jours. Les États-Unis soupçonnent ce consulat d'être le QG d'un réseau d'espions de la Chine aux États-Unis. Parlons sport maintenant. Et surtout, cessez de paniquer, cessez d'être fébrile. On a la réponse que vous attendez. Kylian Mbappé, le prodige du foot français, va bien rester au PSG la saison prochaine et je sens votre soulagement. Il l'a confirmé aujourd'hui, tordant le cou aux rumeurs comme chaque été d'un départ. Julien Froment, Mbappé, il est courtisé par les plus grands clubs et pourtant à chaque fois, il reste. On sait pourquoi ?
Eh bien, la fin de titre. Tout d'abord, jamais rassasié que Kylian Mbappé peut faire une razzia avec le Paris Saint-Germain cet été. Coupe de France, Coupe de la Ligue sur la scène nationale et surtout la Ligue des Champions en août prochain. Le Parisien, plus que jamais épanoui dans le vestiaire, complice avec ses amis attaquants Neymar et Mauro Icardi, a eu un discours des plus limpides chez nos confrères de beIN Sport.
Je suis dans le projet pour une quatrième année. Les 50 ans du club, c'est une année importante aux yeux du club, des supporters, de tout le monde. Donc je serai là quoi qu'il arrive. Et je vais essayer de ramener des trophées avec l'équipe et de faire tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même.
À Paris en 2020-2021, après, rien n'est moins sûr. Cela va être un des enjeux capitaux du PSG cette saison, à savoir prolonger sa pépite à qui il reste 2 années de contrat. Si le Real Madrid a confirmé cet été qu'il n'y aurait aucune approche officielle, Zinedine Zidane suit d'un œil attentif la trajectoire du numéro 7 parisien. Mais le directeur sportif du PSG, Leonardo, l'a répété à corps et en vie, il fera tout pour prolonger sa star, quoi qu'il en coûte.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Allez, on va terminer ce journal en musique avec un petit chef-d'œuvre exhumé aujourd'hui, tout droit venu des années 70. C'est un titre inédit des Stones, enregistré en 1974 et ça s'appelle Scarlet. On le tient peut-être, le tube de l'été Scarlet des Stones, qui sera d'ailleurs intégré dans la réédition du mythique album Goat's Head Soap de 1973, qui ressortira le 4 septembre. C'est la fin de votre journal, on passe à la météo.
Qu'importe la chaleur, vous êtes bien chez vous grâce au volet roulant Velux, fabriqué en France. Plus d'infos sur velux.fr. Velux vous présente la météo.
La météo, et c'est avec vous, Valérie Darmon.
Alors au programme de ce jeudi, des passages nuageux et des éclaircies qui alternent quasiment partout. Les éclaircies qui sont plus franches sur le pourtour méditerranéen, la Corse et puis du nord de la Nouvelle-Aquitaine, au centre, à la Bourgogne, à la Franche-Comté et au Grand Est. Il pleut encore un petit peu, en tout cas le matin sur les Alpes et les plaines du sud-ouest. L'après-midi, ce sera orageux sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes du Nord. Le caractère orageux qui sera plus marqué toujours sur les Pyrénées orientales. Plus au nord, les nuages d'altitude qui deviennent de plus en plus nombreux aussi, et le ciel qui se couvre près de la Manche où il peut pleuvoir. Au lever du jour, le thermomètre affichera 12 à 15 degrés sur la moitié nord, 6 en Picardie, 7 en Champagne, 15 à 20 sur le sud, 20 à 23 sur la Méditerranée. Les maximales, 19 à 22 sur les côtes de la Manche, 25 à 30 sur la moitié nord de la France, 30 à 33 sur le sud, avec des pics toujours à 36 dans le Var et dans le Gard.
C'était la météo signée Valérie Darmon. Europe 1. Dans un instant, un livre pour l'été avec Stéphane Place et la librairie Mola à Bordeaux. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit.
Europe 1, associé à la prestigieuse librairie Mola à Bordeaux pour un troisième été de découverte littéraire. Et ce soir, Stéphane Place vous propose un récit pour le moins caustique. Vous allez voir, ça s'appelle « Propriété privée », un roman de Julia Deck.
Quitter cet appartement étriqué, retrouver de l'espace et soyons fous, un bout de jardin, de préférence dans une construction moderne, idéalement dans l'un de ces éco-quartiers sortis de terre récemment. Une envie, un rêve pour beaucoup de citadins et particulièrement de Parisiens, surtout après les longues semaines de confinement que la France vient de traverser. C'est exactement le projet que réalisent enfin les Caradec. C'est l'installation de ce couple dans cette commune de banlieue que nous raconte Propriété privée. Oh, sur le papier, c'est merveilleux, mais au fil des pages, un tout petit peu plus compliqué. Sylvie Latour est libraire chez Mola.
La maison est parfaite, le lieu est parfait. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, en fait, c'est les voisins qui ont exactement la même maison, à gauche, à droite, sur les côtés et en face. C'est là que les ennuis commencent, en fait. Hein. Ça commence avec la possibilité de l'assassinat d'un chat du voisin. Donc, évidemment, ça commence avec quelque chose d'assez abominable, mais on s'amuse quand même énormément avec ce livre. C'est méchant, c'est assez cruel. Mais finalement, ça pointe tellement de petites choses de notre quotidien. On se laisse quand même assez séduire par la situation. Elle vous embarque avec son ton assez acide, comme ça. Ils sont tous assez minables. Ça ressemblerait peut-être un petit peu à du Chabrol Nouvelle Génération. Hein. C'est un peu ça. Hein. C'est une sorte d'éventail de personnalités, de comportements qui ressemble en effet à cette petite bourgeoisie mesquine qu'on pouvait retrouver dans les films de Chabrol. Enfin, moi, ça m'a énormément fait penser à ça, évidemment.
Un récit fin et caustique porté par la plume talentueuse de Julia Deck.
Je vois des nouveaux quartiers pousser un peu comme des champignons aux portes de Paris. Je tournais autour de ça, mais j'avais pas de personnage, j'avais pas d'intrigue. Et puis tout d'un coup, j'ai eu cette idée. Ce couple qui, animé des meilleures intentions, accède à la propriété privée dans un cadre qui doit être idyllique. Et puis, on est 6 mois après l'emménagement. Il se pose déjà la question d'assassiner le chat des voisins. Et en fait, ce couple Karadec est complètement victime de ses illusions. C'est aussi une grande illusion des gens des villes de penser que parce qu'on s'éloigne, on sera au calme, on sera anonyme. Tout le monde vous connaît, tout le monde vous voit, tout le monde vous entend et réciproquement. Eva Karadec, elle n'a pas spécialement l'intention d'espionner ses voisins. Mais il se trouve qu'elle arrose beaucoup ses soucis. Elle est sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Elle voit tout le monde passer. Elle voit les intrigues qui se nouent entre les uns et les autres. Et puis elle devient elle-même au centre de l'intrigue. Du point de vue architectural, oui, ça ouvrait toutes sortes de possibles.
Propriété privée, un peu moins de 200 pages que l'on croque avec gourmandise.
La chronique de Stéphane Place qui vous accompagne dans votre été littéraire. Et rendez-vous hein, demain pour une autre découverte à la même heure, 22h. 21 minutes, autre rendez-vous estival sur Europe 1. C'est la bonne idée. Tous les soirs, avec Thierry Dagiral, on tire un coup de chapeau à une initiative, à ceux qui, après la crise, se mobilisent et innovent.
Tine Janin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, alpiniste, première française à avoir atteint le sommet de l'Everest en 1990. Depuis, vous avez créé l'association À chacun son Everest. C'est quoi le but de votre association ?
Alors l'association, depuis 25 ans, on accompagne des enfants qui ont été atteints de cancer et depuis une dizaine d'années, des conditions de cancer. On leur permet des séjours pour reprendre confiance en eux, pour poser, pour transformer leur épreuve et retrouver cet élan de vie et cette joie de vivre.
Ce qui est assez merveilleux, c'est que vous accueillez là en ce moment et tout l'été dans votre chalet de Chamonix des soignants gratuitement. 3 jours de cocooning pour ceux qui ont été en première ligne pendant le Covid.
Ben oui, parce qu'actuellement, là, normalement, je reçois des enfants atteints de cancer. C'était un petit peu compliqué parce qu'ils sont très fragiles et tout. Donc, bien évidemment, dans l'évidence, j'ai pensé à ces séjours réparateurs de 3 jours pour des soignants. On en a accueilli 124 des hôpitaux locaux d'Annecy, d'Annemasse, du Change et du Châle. On leur propose sur 3 jours du sport, de la marche, de l'escalade, mais de yoga, de la sophro, de la méditation et aussi des entretiens psychologiques, du soutien psychologique, des espaces de parole. Mmh. Et je peux vous dire que ça leur permet un sas de décompression après ce qu'ils ont vécu. Moi, j'ai vu des soignants arriver, mais en pleurs, fatigués, en colère, complètement chargés de peur de tout ce qu'ils ont vécu, faisant des cauchemars. Ayant tout donné, fier de ce qu'ils ont fait, disant, bon, on nous applaudit, mais en fait, voilà, on a fait juste notre travail. Et nous, c'était tout simplement notre manière de les applaudir, de les réparer, tout simplement.
Justement, comment ils vivent cela ? Est-ce que vous avez énormément d'appels, j'imagine, en ce moment ? Comment ça se passe ? Comment on vous contacte ?
Alors, actuellement, bon, on a terminé nos séjours parce qu'après, on va reprendre les séjours des enfants début août.
D'accord.
On a été en lien avec les hôpitaux locaux. On a géré ça avec les directeurs des hôpitaux. On a eu 125 soignants. Mmh. C'est évident qu'on n'a pas pu accompagner tout le monde. Mais si ça peut donner l'idée faire ce genre de choses, de gérer ce stress post-traumatique et de leur permettre ce zaz de compression et surtout de leur proposer de prendre soin et d'écouter ce qu'ils ont vécu. C'est juste de l'attention et de prendre en considération, je pense, que tout ce qu'ils ont vécu d'extrêmement difficile.
Bravo, vraiment félicitations à vous, Christine.
On est très fiers de l'avoir fait. Et, voilà, j'étais très heureuse que À chacun son Everest ait pu aider tous nos soignants, une partie de nos soignants en tous les cas.
Merci à vous Christine Janin, merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
La bonne idée, c'est tous les jours sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Dans un instant, on va jeter un œil sur les unes de la presse qui vous attendent demain, mais on va d'abord marquer une pause musicale. Vous l'entendez arriver, c'est Oshi, Amour Censure. Il est l'heure de découvrir ensemble les unes de vos journaux de demain. Commençons par aujourd'hui en France avec grand banditisme, la chute du parrain marseillais. C'est Michel Campanella, la figure du milieu marseillais qui a récemment été mise en examen. Donc focus et histoire évidemment rocambolesque. Vous en avez parlé d'ailleurs sur Europe 1 il y a quelques jours de cela. Le Figaro qui choisit lui de faire sa une sur le Liban. La descente aux enfers minée par la banqueroute et une hausse vertigineuse des prix, le pays s'enfonce dans la misère et la dépression. Le Figaro qui propose également un focus sur les mesures que l'État va mettre en œuvre pour aider la SNCF, un plan de plusieurs milliards d'euros. Et puis également sur une page, eh bien, le Figaro vous proposera d'entrer dans les coulisses du temps des tempêtes. C'est un roman, non, c'est un livre, celui de Nicolas Sarkozy qui sort vendredi. L'Opinion qui va choisir de s'intéresser à la communication du gouvernement. Castex, la stratégie risquée du parler cash. Le gouvernement veut en finir avec les experts et la technocratie. Place maintenant à des gens qui parlent simple et fort, nous dit l'Opinion, pour être aisément compris des gens. Matignon veut de l'authentique. Les Échos avec le renouvelable, les énergies renouvelables qui doublent les énergies fossiles en Europe. Et pour la première fois, hein, solaire, éolien, hydraulique sont devant le charbon et le gaz au premier semestre dans la production d'électricité. Ça, c'est pour l'Europe, alors qu'au même moment, la France s'attaque au renouvellement de son parc d'éoliennes. Et la Pologne, elle, consomme toujours plus de charbon que les 25 pays réunis. Ça, c'est donc à lire dans Les Échos, c'est passionnant. Et ça nous parle du monde qui change. Et puis Les Échos qui s'intéressent aussi au foot, ça y est, c'est chiffré, la pandémie. Elle aura coûté et elle va coûter 1 milliard d'euros à la Ligue 1 de football, sans parler des milliers d'emplois qui sont menacés. Enfin, un mot de Libération qui fait sa une sur Éric Dupond-Moretti, un ministre à la peine, le nouveau garde des Sceaux qui fait profil très bas, nous dit le journal, depuis son arrivée à la chancellerie. Voilà pour les journaux de demain. Il est 22h30 et c'est l'heure de vous retrouver, cher Olivier Delacroix.
Merci Simon et je vous dis à tout à l'heure pour le flash de 23h.